Bonjour tout le monde, ou je devrais peut-être dire bonsoir et bienvenue à la tasse de café, le balado d'LNH.com. Nicolas Ducharme au micro et je vous dis, pourquoi je vous dis bonsoir plutôt que bonjour? Ben écoutez, on est officiellement le 19 mai présentement, mais il est 1h30 du matin. Les Canadiens viennent de passer à la finale de l'Association de l'Est. Victoire en prolongation contre les Sabres de Buffalo. Et comme ça vient tout juste de se terminer, ben j'ai avec moi mes collègues habituels, Guillaume Lepage et Jean-François Chaumont, qui sont en direct de Buffalo. Vous venez de sortir du KeyBank Center, messieurs. Votre texte est rentré, c'est sur LNH.com. Et là, vous avez saisi votre micro. Merci d'être là pour cette émission très, très tardive.
Ça fait plaisir, Nick. On fait des sacrifices parce que le bar dans le lobby de l'hôtel était très attrayant à notre entrée, mais on est sagement monté à nos chambres pour enregistrer ce balado.
Moi, je me sens revivre Milan. On dirait que je reviens au mois de février là, avec des balados très tard la nuit. Puis à Milan aussi, le bar était, ma foi, actif. Mais en série, c'est comme tu dois bloquer des tirs, tu joues blessé, tu fais un balado tard. C'est toute la même histoire.
Oui, même à Milan, il y avait une fois que tu avais enregistré en direct du bar.
Pas au bar, mais dans le bar en général.
C'était typique. Quand tu m'as dit aujourd'hui, Nick, on pourrait l'enregistrer après la game, je ne sais pas si tu vas dormir. Je dis, écoute, je t'en dois quelques-unes pour Milan. Ça va me faire plaisir. Donc, écoutez, si vous nous écoutez en ce lendemain de victoire des Canadiens, je vous salue. Surtout, écoutez, il y en a peut-être qui vont nous écouter alors qu'ils sont en route vers Montréal, de retour de Buffalo, et peut-être le matin même, là, si ça se relaie, parce que aussi c'est un long week-end, donc il y en a qui ont descendu et qui sont en train peut-être de remonter vers Montréal, vers le Québec. On vous salue. Merci d'être là aujourd'hui pour cet épisode où on va bien évidemment revenir sur cette série-là entre les Sabres et les Canadiens. On va aussi parler... OK, normalement, là, chaque année, quand on fait notre aperçu des finales d'association, le balado, on va vraiment analyser en profondeur. Mais écoutez, les gars, là, vous êtes... le nez dedans, comme on dit, avec la série, avec les Canadiens et les Sabres. Donc, on va peut-être plus passer brièvement sur le duel entre les Golden Knights et l'Avalanche qui s'amorce mercredi. Celui entre les Hurricanes de Caroline et les Canadiens qui, lui, va s'amorcer jeudi. D'ailleurs, là, vous revenez à Montréal, vous partez où? Vous en allez où, les boys?
Non, direction Toronto. Demain, on conduit Buffalo-Toronto, puis vol direct Toronto-Raleigh. Donc, et mercredi, le CH fera une disponibilité média à Raleigh, donc à la veille du premier match avec Kent Hughes qui va parler... 4 joueurs, l'entraîneur-chef. Donc, c'est le temps de placer la table pour cette finale de l'Est contre les Hurricanes.
Bon, hey, on y va. On se lance dans le sujet, les gars. Cette série-là, ce match numéro 7-là, il y a un seul nom qu'il faut retenir, Jacob Debeche. Je sais qu'Alex Newhook est celui qui a marqué le but en prolongation. Mais Jacob Debeche va avoir été le grand héros à nouveau, parce que j'ose le dire, ça avait été aussi le cas contre le Lightning, surtout dans le match numéro 7. Vous avez trouvé ça comment, ce match numéro 7-là, de la part des Canadiens? J'avais parfois l'impression, si on enlève là, les 12-15 premières minutes du match, là, j'avais l'impression de revoir la même chose que lors du dernier match de la série contre le Lightning.
Chaumont commence toujours, fait que je le laisse commencer.
Hey, j'ai parlé de l'itinéraire de demain, je vais le laisser
non,
à Guillaume.
Dans
le vestiaire, Guillaume, j'étais devant Jacob Debeche, là. Guillaume parlait avec Zachary Bolduc, avec Alexandre Carrier, Philippe Dano. Oui, c'est vrai que Debeche est une grande histoire dans ce 7e match contre les Sabres. Mais je pense que c'était encore plus frappant à Tampa, à quel point Debeche avait été dominant, à quel point c'est lui qui avait changé le cours de cette rencontre. Il a été très bon, 37 arrêts sur 39 tirs. C'est lui qui a calmé la tempête, surtout en deuxième période. Les Sabres attaquaient partout. On sentait qu'il revenait dans ce match. Le CH a probablement commis l'erreur. Tu sais, mentalement, tu mènes 2-0, tu te dis que tu dois protéger plutôt que de continuer à essayer d'attaquer, à essayer de passer du temps en zone adverse. Bien, à ce jeu-là, ils se sont perdus. Les Sabres ont regagné confiance. Debeche, lui, a réussi à éteindre les feux en grande partie. Puis ce qui est intéressant, après le match, il disait « Au dernier match, je me suis fait sortir de la rencontre à Montréal, devant mes partisans. » Ça l'a piqué un petit peu dans son orgueil. Non pas qu'il critiquait la décision de Martin Saint-Louis, absolument pas, mais il dit qu'il s'en est servi comme un réveil, voulait rebondir, voulait mieux jouer dans ce 7e match-là. Il a été très bon. Puis Dobesch étant Dobesch, il y a eu des passages aussi drôles devant les médias en disant qu'il remerciait la foule de Buffalo parce qu'ils aiment crier son nom, Dobie, Dobie, Dobie. Puis il dit, moi, être le vilain, j'aime ça. Et il dit, ça me place encore plus dans le match, plus dans les émotions. Il a bien géré sa rencontre. Oui, c'est un facteur déterminant, mais il ne faut quand même pas oublier Alex Newhook, le Nick. C'est une deuxième fois dans un septième match que Newhook marque le but vainqueur.
Qui l'avait prédit?
Pas moi. Je choisissais pas Alex Newhook.
Non, ben moi, oui.
Oui, t'avais sorti Newhook. Ça allait trop vite, là, les conversations.
Nick, commence pas à parler de prédictions ce soir.
J'ouvre la porte, là. Effectivement. Écoute, je vois toujours bien être passé à un but d'avoir raison dans mon changement de prédiction de début de série, mais écoute, finalement, je vais avoir eu tort, puis je l'assume, mais pas à peu près. Mais il reste, tu parles d'Alex Newhook, tu parles de cette série-là aussi, ce match-là, va avoir été encore plus sous l'étoile de la profondeur chez les Canadiens. Parce que si c'est pas de la production secondaire de cette équipe-là, on est éliminé un petit bout. Là. Parce que, soyons francs, Juraj Slafkovský, Cole Caulfield, ça n'a pas été des facteurs dans cette série-là. Suzuki, pas mal mieux. Là. Mais les autres, encore ce soir, Caulfield, 2-3 chances, là, je pense, qu'il a raté.
4-5.
J'essayais d'être gentil.
Des raisons obscures, j'avais des petites émotions chaque fois que Caulfield avait une chance. Il faut savoir qu'on fait un petit tirage là, du but gagnant. Et j'avais tiré Cole Caulfield. J'aimais bien mes chances en prolongation, mais finalement, bon, c'est Alex Newhook. Mais Caulfield a quand même cogné à la porte assez souvent dans ce match-là. En première période, Luukkonen a fait 2 gros arrêts de la contre lui. Il y a eu une autre chance aussi dans l'enclave, je pense que c'était en deuxième ou en troisième. Mais tu parlais de la profondeur, Alex Newhook en fait partie de cette profondeur-là, puis c'est un joueur qui se lève dans les grands moments, visiblement, connaît d'excellentes séries, n'arrête tout simplement pas de marquer. Des gars comme Alexandre Texier, qui est, tu sais, on le voit un peu moins sur la feuille de match, mais quand même, rend de fiers services aux Canadiens. Je trouve qu'il est très, très bon en protection de rondelles, capable de soutenir l'attaque. Là, tu sais, on n'a pas vu souvent le Canadien bourdonner ce soir, là, à part peut-être en première période et en prolongation. Mais quand c'était le cas, c'était souvent Alexandre Texier qui menait la charge. Jake Evans aussi a eu des bonnes séquences, Alex Newhook. Donc, ces joueurs-là ont été très, très importants pour les Canadiens. Puis, sans dire que le tricolore est rendu en finale de l'Est sans son premier trio, on a eu un petit peu de contribution. Ça a été mieux dans la série contre les Sabres de Buffalo, mais c'est pas le premier trio qu'on a connu en saison régulière qui dominait complètement l'adversaire. Là, c'est plus serré, c'est plus difficile un peu pour les trois joueurs. Slafkovský, dernièrement, a l'air un petit peu hésitant sur la patinoire. Caulfield, ben c'est des montagnes russes. Des matchs, on le voit beaucoup. D'autres matchs, un peu moins. Suzuki est quand même assez constant. Là. C'est une constante sur ce trio-là. Et toujours au cœur des batailles pour la rondelle et tout ça. Mais c'est, encore une fois, bon signe que cette équipe-là soit capable de signer des grosses victoires comme ça sans que ce soit le premier trio là, qui mette le reste de l'équipe sur ses épaules.
Mais dans cette série contre les Sabres, oui, la bataille de la profondeur va probablement à l'avantage du CH. Mais si tu regardes la lutte entre les deux premiers trios, techniquement, les Sabres, Tage Thompson, un gros match numéro 6, mais à l'exception du match 6, Thompson a amassé des points, mais il n'était pas un facteur déterminant dans cette série-là. Alex Stock, dans la catégorie absent, il n'a pas le choix de lever sa main. Alex Stock, c'est aucun point. Puis, ça a forcé Lindelof à remanier ses trios.
Peux-tu lever ta main si tu es absent?
Non. Non. C'est quoi? 1h42.
Les grandes réflexions.
Dans la catégorie d'abord des grands disparus, Alex Tuck en fait partie. Tuck, il a vraiment connu une série très, très, très difficile contre le CH. Ouais. Mais tu sais, on a parlé, Guillaume avec raison, on a parlé d'Alexandre Texier. Faut quand même aussi saluer le travail de Philippe Dano. Dano a été une force au sac des mises en jeu. Il a été très bon contre les canons offensifs des Sabres. Dano qui marque un but, le premier dans le septième match. Puis un autre, Québécois aussi, c'est pas parce qu'il est Québécois, mais Alexandre Carrier, son jeu dans le septième match, défensivement, il a été solide. Il a été très bon dans l'ensemble de cette série. Sixième match, probablement une punition qui a pas aimé. Il y a eu parfois des montagnes russes dans le cas de Carrier, mais c'est vrai que la profondeur du CH, a se fait ressentir. C'est une équipe qui n'est pas obligée de miser uniquement sur ses gros noms. Mais dans les gros noms, il y a Lane Hutson. T'sais, Hutson, on dirait qu'on arrête d'en parler, mais soir après soir, ah, il fait un boulot formidable. Dans le septième match, c'est quoi? C'est 31 minutes 17 secondes son temps de jeu. Il a un moteur hallucinant. Son intelligence, ses passes, sa vision du jeu. T'sais, il y avait devant lui Rasmus Dahlin, qui est un candidat pour le Norris. Encore une fois, le sixième match d'Aline, c'est 5 points. Ça, c'est bon pour gonfler des statistiques. Mais quand on analyse les matchs 1 à 7, Hutson a été le meilleur défenseur de cette série.
Avez-vous posé la question aux gars dans la chambre, aux joueurs, comment ça se fait que deux matchs de suite t'échappent une avance de 2, 3 buts? Des avances qu'on a échappées dans et à défaut, au moins, on s'en est sorti. Parce que c'est sûr que quand on a vu les Sabres marquer ce deuxième but-là, ça devait, le hamster devait rouler pas à peu près dans l'esprit. Parce qu'en plus, là, il n'y a rien qui fonctionnait. Là. Tantôt, tu as dit, Jeff, combien de temps?
12-17, je pense, sentir. Écoute, entre la fin de la deuxième et le milieu de la troisième période.
J'avais calculé tantôt, là, malheureusement, j'ai bien évidemment fermé le dossier.
Mais contre le Lightning, c'était pire, c'était 25 minutes, donc il y a même du progrès. Ils ont coupé de moitié.
Mais j'avais même regardé là, entre le but de Bolduc puis le tir d'Anderson en troisième période, qui a ramené un peu l'équipe là, sur le droit chemin, là, au moins, là, c'était comme, je pense que c'était 7 tirs ou 6, 5 tirs, je ne sais plus, là, en 33 minutes. Là. Ouais. Ça ressemblait beaucoup aussi au match contre le Lightning. Bon, on a réussi à tenir le coup. On a trouvé un moyen de passer à travers tout ça. Mais est-ce qu'on avait quand même une explication sur pourquoi on s'est mis à jouer sur les talons comme on a fait? Pourquoi on s'est mis à défendre? Ça a coûté cher aux Canadiens. Puis en série, faut que tu continues à faire ce qui te donne du succès. Ça a coûté cher au Wild du Minnesota contre l'Avalanche dans le match où l'Avalanche est revenue de l'arrière pour gagner. Là, je pense que c'était le dernier match de la série, là, si je me souviens
match
bien.
5.
Match 5.
Mais la question a plus ou moins été posée. Je pense qu'on a dit, surtout du côté du Canadien, que là, on s'était pas laissé affecter par le fait qu'ils sont revenus, que les Sabres sont revenus dans le match et tout ça. Mais honnêtement, on le sentait venir là, à partir du moment où les Sabres se sont mis à virailler dans le territoire des Canadiens. Le but s'en venait, puis une fois que le premier était marqué, ben là, c'était une question de minutes avant que le but égalisateur vienne, parce que on dirait que le Canadien reculait, laissait beaucoup trop d'espace au Sabres. Puis il y a un jeu en particulier qui, je l'ai répété à Jeff tout au long de cette séquence difficile-là, les Sabres sont des experts pour rentrer dans le territoire, freiner et remettre la rondelle derrière. Et à partir de ce moment-là, dès que la rondelle arrivait sur les palettes des défenseurs des Sabres, le Canadien était complètement embouteillé parce que le système man-to-man était plus ou moins approprié là, pour réussir à contenir la mobilité des défenseurs des Sabres en territoire offensif. Fait que ça a causé vraiment beaucoup de problèmes. Puis quand les Sabres, dans cette série-là, quand les Sabres ont été en mesure d'en arriver à ce style de jeu-là puis à appliquer ça, on a passé beaucoup, beaucoup de temps en territoire des Canadiens puis on a réussi à générer toutes sortes de chances de marquer. Donc, on savait que ça s'en venait. En plus, la foule, honnêtement, ce soir, même à 2-0, ça a continué de crier. Puis peut-être parce qu'on a vu la remontée dans le match 6, là, on savait que les Sabres ne sont pas morts tant qu'ils ne sont pas enterrés. Là, mais ça s'est quand même... Ça s'est quand même bien terminé pour le Canadien. On a réussi. En prolongation, j'ai trouvé que... Je sais pas si c'était les Sabres qui étaient un peu sur les talons, un peu nerveux, mais le Canadien était surtout majoritairement en contrôle de la rondelle. On a réussi à avoir de bonnes séquences en zone offensive. Puis on a limité surtout les chances des Sabres, là, même s'il y en a eu quelques-unes. J'ai trouvé que le Canadien est revenu fort, au moins en prolongation, après avoir laissé filer cette avance-là.
Mais il y a Mike Matheson, je sais qui s'est levé après la troisième période, qui a pris parole dans le vestiaire, question de peut-être rassurer ce jeune groupe. Les Sabres formaient une jeune équipe aussi. Mais tu sais, Nick, tu me demandes qu'est-ce qui clochait, qu'est-ce qui explique cette incapacité-là dans deux matchs d'affilée à protéger une avance. Je pense que toute la série, dans l'ensemble, le mot imprévisible reste très, très, très important. Mm-hmm. T'as eu des varlopes de 6-3, une défaite de 8-3, une victoire de 5-1. C'était jamais serré, sauf évidemment le septième match, quand on se dit on va enregistrer après le match. C'est là qu'on a une prolongation. Donc, au moins, c'était. Il y a eu des tempêtes, mais c'était un match où c'était plus resserré. Il y avait une priorité sur le jeu défensif. C'était quand même un bon septième match. On ne peut pas dire que les 6 autres ont été de grands classiques entre le CH et les Sabres.
Oui. Quand on regarde aussi, tu parlais, bon, les Canadiens, c'est une équipe qui est jeune. Mais c'est une équipe qui progresse. T'sais, Martin mm-hmm. Saint-Louis s'est fait poser une question. Là. Qu'est-ce qui a accéléré votre progression? Parce qu'ils sont pas... Si je recule là, un an, là, si je recule là, à décembre l'année dernière, vous vous souvenez quand les Canadiens étaient à peu près 30-31e là, dans la Ligue nationale de hockey, il n'y avait rien qui fonctionnait. Si vous m'aviez dit à ce moment-là que cette équipe-là, avec à peu près les mêmes joueurs presque, la seule différence c'est devant le filet, mais encore là, l'année dernière, mon tambour jouait du bon hockey. Si on avait dit que cette équipe-là allait avoir gagné sa place, pas un accident, c'est pas un accident là, quand même, là, on a quand même bien fait les choses. Jusqu'en finale d'association. Qu'est-ce qui explique cette progression-là, vraiment, là, de la part des Canadiens? D'ailleurs, Guillaume, là, tu viens de changer de... Trouble de micro pour Guillaume, mais je suis curieux de t'entendre là-dessus. Là.
Oui, évidemment, il faut que les problèmes techniques arrivent quand il est 2h du matin. Mais non, je vais parler un petit peu cacane pour le reste du podcast, mais ça va être ça. Qu'est-ce qui explique cette progression-là? Si on veut pointer vers un joueur plutôt que de regarder le portrait global, je pense qu'on peut regarder vers Lane Hudson, là, qui est devenu vraiment le défenseur étoile de cette équipe-là en l'espace de 2 saisons. Puis tu sais, il vient stabiliser le jeu défensif, le jeu offensif. Jeff l'a dit, c'était le meilleur défenseur sur la glace dans cette série-là. Donc pour moi, il y a ça, mais il y a aussi le fait que ce groupe-là a grandi ensemble dans les dernières années. Ça fait déjà plusieurs saisons qu'on joue le style de jeu que Martin Saint-Louis veut implanter dans cette équipe-là. Donc on a une identité quand même claire. Peut-être pas aussi clair que les plus récents champions de la Coupe Stanley, là, par exemple les Panthers de la Floride qui jouaient de la même façon à chaque minute de chaque match. Là. Les Canadiens, ça a été un peu plus des hauts et des bas là, dans ces séries-là, mais on peut pas demander la même chose d'une équipe aussi jeune que le Canadien que ce qu'on voyait des Panthers. Donc, tu sais, tout ça mis ensemble, je pense que ça mène à ce qu'on voit en ce moment, c'est-à-dire une équipe qui participe aux séries pour la 2e année seulement, puis est rendu dans le corridor de la Ligue nationale.
Il y a eu aussi un travail méthodique, là, je dirais, de Kent Hughes, Jeff Gorton. On n'a pas cherché à tricher, à devancer le plan, mais on a acquis des morceaux importants de bons moments. On peut remonter à Alexandre Carrier l'an dernier, la transaction avec Justin Barron, les Prédateurs de Nashville. Cet été aussi, il y a quand même eu un coup de barre important. Noah Dobson vient changer le visage de l'unité défensive du CH. Zachary Bolduc donne du bon hockey en série. C'est une autre acquisition de Kent Hughes. Puis l'autre élément, c'est Martin Saint-Louis disait l'âge. Oui, c'est une réalité. Le CH est la plus jeune équipe à atteindre le carré d'as depuis 1993. Clin d'œil au Canadien de Montréal qui avait gagné la Coupe Stanley en 1993.
Bonjour l'image. Hein?
Oui, exactement. La symbolique, l'image. Mais je trouve qu'il y a très peu d'égo au sein de ce vestiaire-là. C'est des jeunes qui ont grandi ensemble, qui s'aiment bien les uns les autres. Nick Suzuki est un capitaine qui prêche le bon exemple. Puis l'autre, quand même, exemple frappant, moi, je pense à Samuel Montembeau qui est relégué un rôle de numéro 3 depuis plusieurs semaines. Et Montembeau ne grogne jamais. Il est le premier à être debout sur la passerelle de presse, veut encourager ses coéquipiers. C'est un bon signe. Il y a Brendan Gallagher aussi qui n'a pas joué un seul match 2e tour. Un vétéran aimé, respecté. Il n'a pas eu un effet boule de neige négatif. Gallagher accepte son sort. Ses coéquipiers, la même chose. Donc, c'est une équipe qui pousse ça
à l'extrême avec Patrick Laine.
Mais même Patrick Laine, absolument. Puis il y a une bonne attitude, Patrick Laine. Écoute, il en a fait des entraînements, Patrick Laine. Il en a décoché des tirs. Il a servi d'attaquant sur une multitude de trios fictifs. Laine, on sait qu'il ne jouera pas, mais Laine gravite dans l'entourage de l'équipe. Puis quand vient le temps de faire un mauvais coup, de déconner, de s'amuser un peu, mais tu le vois liner dans le corridor. Je pense l'image là, après le septième match à Tampa Bay où Fowler, Montembeau avait entarté Jakub Dobesh, mais liner était le premier arrêt, était le premier à se réjouir pour ses coéquipiers. Donc, ça peut être un cliché. Là. Toutes les équipes qui vont atteindre le carré d'as vont dire qu'ils ont un bon esprit d'équipe, qu'ils s'amusent, mais c'est quand même perceptible du côté du CH.
Oui, vraiment, vraiment. Tantôt, JF, tu parlais de cette série-là. Il y a eu parfois pas du n'importe quoi, là, mais
pas loin.
C'était pas structuré. C'était pas. S'il y a une équipe qui est structurée depuis le début des séries, c'est bien les Hurricanes de Caroline. 8 matchs seulement. On a balayé les Sénateurs en première ronde. On a balayé les Flyers. On vient de balayer les Flyers. C'est l'adversaire à partir de mercredi. Ce ne sera pas facile parce que c'est une équipe qui a faim. Là. On est tanné de manger des mornifs en finale d'association. Ça fait 3 années de suite qu'on y va. Ça va être la 4e année en 5 ans qu'on y va. On a une fiche de 1 et 12 en finale d'association. Là, avec ce début de série-là, est-ce que la commande est un peu trop grosse pour une équipe comme les Canadiens?
Ben, pour ma part, je pense que oui. On a vu de très belles choses des Canadiens au premier tour contre le Lightning. Tu sais, Martin Saint-Louis a beaucoup répété que son équipe peut jouer n'importe quel style de match. On l'a vu en première ronde où c'était très, très serré, très méthodique contre le Lightning de Tampa Bay. En deuxième ronde, c'était plus du coup pour coup avec les Sabres de Buffalo. Puis le Canadien s'en est sorti indemne avec une victoire en 7 matchs. Là, on revient probablement à un style de jeu très, très serré, très hermétique contre les Hurricanes de Caroline. Mais pour jouer ce type de match-là, ça prend une équipe qui a du jus, qui a de l'énergie, qui peut se consacrer, tu sais, à 100% à ses missions défensives et tout ça. Puis bien honnêtement, dans les derniers matchs de la série contre les Sabres, je pense qu'on a vu une équipe qui commence à être fatiguée un peu. Là. On a fait confiance à Oliver Kapanen dans ce match-là en espérant mettre des jambes fraîches sur la patinoire. Finalement, il a seulement joué 4 minutes. 50,
je pense.
4 minutes. On voit peut-être une équipe qui commence à être au bout de ses ressources. Je pense que si ce duel-là avait eu lieu au premier tour, là, avec deux équipes qui ont le même niveau d'énergie et tout ça, on aurait peut-être eu droit à une longue série, mais là, j'ai de la difficulté à voir comment les Canadiens vont être en mesure de faire face à cette machine-là qui est bien rodée. On va faire de jeu de mots avec le nom de l'entraîneur-chef, puis qui est aussi très, très reposé. Là. C'est 8 matchs. Entre, ouais. Entre le premier tour et le deuxième, on a eu, je pense, 6 journées de congé du côté des Hurricanes. Là, on en a eu 12. On est rendu à 18 jours de congé. C'est beaucoup moins pire qu'en saison régulière. Oui, ça peut avoir des effets négatifs, mais je pense que sur le long terme, ça va bénéficier à cette équipe-là.
Mais tu sais, la finale de l'Est, dans le fond, t'as un choc entre une équipe qui vient de parcourir 2 marathons contre une équipe qui a couru 2 fois des 400 mètres. Donc, il y a peut-être un petit peu plus de fatigue dans le camp du CH.
Mais en même temps, la rouille, l'aspect rouille, c'est long.
Mais ça, c'est le danger pour les premiers matchs. J'arrête pas d'en parler à Guillaume. J'ai hâte de voir la réponse des Hurricanes au premier match de la finale de l'Est. Là, t'as beau t'entraîner, t'as beau essayer de recréer des situations de match, ça reste que ça fait longtemps que t'as pas reparti ta machine. Mais de l'autre côté, c'est le pire, c'est l'extrême. C'est 2 séries en 7 matchs, 2 séries très émotives. Ils ont fait tomber aussi de bonnes équipes, le Lightning, les Sabres. Juste dans le 7e match, Guillaume a glissé un mot avec Oliver Kapanen, mais le 7e match aussi, c'est essentiellement 5 défenseurs. Arber Jacky a joué 1 minute 50 secondes. Est-ce qu'il va y avoir un essoufflement? C'est possible. Mais en même temps, le CH connaît un bon parcours en série. Si tu regardes la fiche entre les deux équipes cette saison, Montréal a très bien joué contre les Hurricanes. Moi, j'ai fait la gaffe de choisir le Lightning au premier tour, choisir les Sabres au deuxième tour. Maintenant, j'ai choisi les Hurricanes. Donc, techniquement, le CH devrait gagner. Si on poursuit sur cette logique qui n'en est pas une, on verra. Mais c'est je me souviens pas d'avoir vu un si grand déséquilibre entre le repos d'une équipe, puis de la fatigue de l'autre côté.
Ouais. J'ai été vérifié, messieurs. Savez-vous, c'est pas un record. Officiellement, c'est 11 matchs de congé, 11 jours de congé pour les Hurricanes, là, c'est pas un record. Le record de l'histoire des séries éliminatoires de la Coupe Stanley, c'est 12 jours. C'était en 1918-1919, OK? C'est parce que les Canadiens devaient se rendre à Seattle ouais, pour affronter les métropolitains en train.
Mais ça, dans le fond, c'est un voyage aussi long que de faire Edmonton, Montréal, Montréal, Floride.
Là, vous
êtes à bord d'un train.
Vous plaignez pour 15 heures de vol, escale, tout ça ici et là. Tu sais, à cette époque-là, il fallait que tu le fasses en train. Tu pouvais attraper une maladie mortelle en plus ici et là. C'était possible que le train pogne une tempête de neige, il faut aller le pousser. Donc, quand même, là. Mais c'est ça la réalité. Puis j'ai hâte de voir comment ça va impacter parce que il y a des éléments chez les Hurricanes qui avaient beaucoup de momentum. Ouais. Le trio de Jackson Blake, Logan Stankoven, Taylor Hall qui est revenu au Taylor Hall qui a gagné le trophée Hart, ça fonctionnait à plein régime. Frederick Anderson, cette longue pause-là, que ça va lui nuire. Tu te dis, c'est un gardien qui est âgé. Ben, âgé, en tout cas, c'est un vétéran, je vais être plus gentil. Là. Mais c'est un gars qui est fragile. Est-ce que cette longue pause-là va avoir un effet? Ça se pourrait. Oui, c'est clair que les Canadiens partent avec une prise, mais j'ai hâte de voir comment on va réagir dans le début de la série, comme tu disais, Guillaume, là. Pas Guillaume, mais GF, pour à quel point ça va avoir un effet de ne pas avoir joué. En plus, faut le dire, là. C'est pas comme si les Hurricanes pouvaient se préparer. Tu savais pas jusqu'à ce soir quelle équipe t'allais affronter. Donc oui, tu peux regarder un peu de vidéo, tout ça, mais c'est pas exactement comme si t'attendais d'affronter les métropolitains de Seattle puis tu voulais faire du... Non, tu faisais du télégramme. Mais bon, ça, c'était une autre époque, là, les comment ça fonctionnait. Mais c'est ça. Voulez-vous y aller avec votre prédiction, mais votre analyse de cette série-là, je vous écoute là, si vous voulez rajouter. Là.
Ben moi, j'ai choisi, si on y va pour la prédiction, écoute, c'est une prédiction où j'ai eu environ 8 minutes pour y réfléchir, puis même 8 minutes, je pense que c'est
ça
beaucoup.
Va vite, hein?
mais j'ai choisi les Hurricanes à Caroline en 6. Justement, je crois que le départ, Montréal, à mes yeux, risque de voler un match à Raleigh en début de série, mais je crois que l'expérience des Hurricanes, le Rod Brind'Amo, c'est une équipe qui, pour reprendre le mot de Guillaume, est rodée. Donc, Sébastien Nao aussi est relativement tranquille là, dans les huit premiers matchs. Donc, Nao pourrait rebondir vers l'avant pour recycler l'expression de Martin Saint-Louis. Puis, c'est une équipe aussi, tu sais, Jacob Slavin est un des meilleurs défenseurs défensifs de la Ligue nationale. Je sais pas. J'ai un petit feeling sur les Hurricanes, mais je pense pas que ça va être une balade dans un parc non plus. Le CH est le type d'équipe à quand même très bien vendre sa peau. Donc, Caroline en 6.
Ouais, tu sais, ils ont ajouté Nick Ehlers cette année, ils ont ajouté Keandre Miller, ils ont ajouté, tu sais, William Carrier, là, vous allez lui parler, je pense, là, durant la série, à quelques reprises, il y a du poids, Jarvis, est fatigué, il y a beaucoup d'expérience, beaucoup de vécu dans cette équipe-là.
Mais ils n'ont pas encore affronté une équipe de qualité comme celle
c'est
du
C'est ça,
Search.
On n'a pas fait face, à, puis on n'a pas fait face à l'adversité. Quelques matchs un peu en prolongation ici et là, mais on l'a pas eu cette adversité-là. Tu sais, les Sénateurs,
c'est un peu la même chose à chaque année. C'est chaque finale de l'Est que les Hurricanes, à laquelle les Hurricanes ont participé, ça a été des parcours quand même plus faciles que celui des équipes dans l'Atlantique. Puis là, on arrivait contre une équipe qui avait travaillé plus fort peut-être, mais qui était mieux outillée peut-être mentalement à faire face à de plus grands défis. Oui, ça peut être un facteur. Tu sais, je vois, ma prédiction, c'est Hurricanes en 5, mais je vois quand même un scénario où le Canadien enlève le premier match, puis à partir de là, bâtit une confiance, puis se rend compte que, bon, on est à 3 matchs de la finale de la Coupe Stanley. Là, ça peut être aussi... ça peut permettre aux joueurs de se rassembler derrière cet objectif-là, mais je pense qu'on va manquer un peu d'énergie et d'outils là, dans ce duel-là contre les Hurricanes. Puis quand tu regardes ça, le portrait global, c'est normal. Là. On parle d'une équipe qu'on n'attendait pas en finale de l'Est cette année, qu'on attendait peut-être au deuxième tour. Certains les éliminaient au premier tour, comme mon collègue GF. Déjà, c'est certain que le Canadien ne traitera pas ça comme du bonus, parce que on veut, du côté des joueurs, on veut se rendre en finale de la Coupe Stanley.
C'est
exact.
Ça,
on se voit plus gros que peut-être nous qui analyse ça avec moins de billets. Là. Mais je pense que au final, il y a un trop grand déséquilibre dès le départ pour que le Canadien s'en tire.
Mais juste dans les célébrations, après la victoire contre les Sables, là, on sort du vestiaire il y a quelques heures. Puis c'était pas le champagne, ça restait sobre, calme. Puis vraiment, le message, c'était on veut poursuivre la route. C'est pas une équipe qui, là, se tape dans le dos en disant waouh, on atteint la finale de l'Est, mission accomplie.
C'est pas Cendrillon à minuit, là.
Non. C'est une équipe qui a quand même eu 106 points aussi cette année. Là. Ça, oui, ils sont jeunes, à 25,8 ans, je crois, la moyenne d'âge. Mais Josh Anderson le disait tantôt, nous croyons en nous depuis le début des séries. Là, maintenant, il y a un gros obstacle avec les Hurricanes. Oui, Dano
a dit la même chose. Il a dit, j'ai l'impression que tout s'aligne pour notre équipe, puis on a tous les éléments, on a un coach, on a un gardien. Il a nommé à peu près tous les éléments d'une équipe gagnante. Fait que les gars, c'est certain qu'ils y croient. Je me souviens plus qui disait ça de l'organisation des Blackhawks là, à leur première Coupe Stanley là, avec les Taves et les Kane. Cette personne-là racontait que personne à l'extérieur croyait en cette équipe-là parce qu'on disait qu'il était
peut-être
trop jeune
Stephen
et tout
Waite.
Ça. Peut-être. Mais qu'à l'interne, le noyau se disait « Écoute, on a notre place ici, puis nous autres, on y va jusqu'à temps qu'on réussisse à nous éliminer. » Puis finalement, ça les amenait à la Coupe cette année. Je ne suis pas en train de dire que c'est ce qui va se passer avec les Canadiens, mais entre notre perspective à nous, et ce qui se passe à l'interne, il y a un monde de différence. Donc, ça peut aussi nous surprendre. Non? Ça peut être une équipe qui va vouloir justement prouver qu'ils ont leur place avec les Hurricanes et qu'ils peuvent battre cette équipe-là. Fait que, à suivre, je ne serais pas surpris qu'on soit un petit peu étonné là, du rendement du Canadien dans cette série-là, mais froidement, c'est un duel inégal, à mon avis.
Et la bonne nouvelle, s'il y en a une, que la série contre les Sables, c'est pas terminé en 6 matchs, c'est que la troisième rencontre contre les Hurricanes va être lundi prochain, non pas samedi, parce que imaginez en plein Grand Prix de Montréal de Formule 1 avec les Canadiens en série, ça aurait été...
Il y a eu du monde en ville.
Si t'as pas d'affaires en ville, rentre pas en ville. Puis moi, je vais ajouter, je vais dire un peu comme vous autres, je suis bien d'accord, je vais dire Canadiens en 5. Hurricanes. Hurricanes, ça y est. Ah, il est tard.
Non, mais tu peux dire Canadiens en 5, puis changer.
C'est ça, je suis un gars de
même. Moi, j'ai jamais changé mes prédictions.
Non, je te le donne. Quand t'es mauvais, de A à Z, c'est ça. C'est
puis
ça.
Là, si on compte le deuxième tour, je suis quand même 3 en 4. Donc c'est
t'es
pas,
remonté
c'est
un petit peu, là. Mais c'est ça.
Et je, comme tu disais, je passais à un but d'être 4 en 4.
Ouais. Hey, les gars, rapidement, je vous amène du côté de l'Ouest. Les Golden Knights contre l'Avalanche, deux équipes qui ont récemment gagné la Coupe Stanley, deux équipes qui sont remplies de gros canons. Mitch Marner qui fonctionne à plein régime présentement, qui est en mission. Vous regardez cette série-là. Tu sais, l'Avalanche a terminé vraiment loin, facilement, premier au classement. Les Golden Knights ont terminé plus bas. On a eu beaucoup de difficultés. Depuis que John Tortorella est là, ça va beaucoup mieux. On est beaucoup plus stable. Carter Hart qui fait le travail devant le filet. L'autre côté, Scott Wedgwood, est-ce que c'est vraiment le gardien qui va t'amener jusqu'à la terre promise? Vous la voyez comment, cette série-là, avant d'y aller, de votre prédiction?
Mais l'Avalanche a quand même réussi à écarter de sa route le Wild du Minnesota en 5-10 matchs. Le Wild jouait sans Joel Eriksson-Ek. C'était une très lourde perte. Mais je trouve que c'est une formidable machine de hockey, celle de l'Avalanche du Colorado. Nathan MacKinnon est parfois sur une autre planète. Martin Nekhatch est un très bon compliment. Pour moi, le punch offensif de l'Avalanche est plus grand que celui des Golden Knights. Mais Mitch Marner joue du très, très, très gros hockey. Je crois simplement que c'est la puissance de l'Avalanche devrait l'emporter. Puis encore, je trouve les Golden Knights, sans avoir le parcours semblable à celui des Hurricanes, les Golden Knights ont battu les Ducks au deuxième tour, le Mammoth au premier tour. C'était une division un petit peu plus faible que... Pas un petit peu, pas mal plus faible
beaucoup
que celle de l'Avalanche.
Faible.
Donc... Pour cette raison-là, je me place dans le camp de l'Avalanche du Colorado.
Guillaume, toi?
Ah, même chose pour moi. Puis honnêtement, j'ai pas vu beaucoup de matchs de l'Avalanche dans ce parcours-là. Là. On est assez occupé avec les Canadiens. Mais
on a vu la remontée en troisième période dans le cinquième match quand McKinnon a placé la rondelle dans un minuscule taux.
Ouais, mais j'y vais avec une règle de trois. Là. L'élimination en cinq matchs du Wild du Minnesota, ça m'a quand même surpris. Là. Je m'attendais à une série un peu plus longue, mais
l'Avalanche... S'il y avait une place, un joueur que le Wild ne pouvait pas perdre, c'était Joel Eriksson. Ouais. Parce qu'on n'a pas de profondeur au centre chez le Wild. Exact. Ça, là, dès le départ, on a compris que ça allait mal partir pour le Wild. Puis ça a été quoi, 9-6 premier match? Mm-hmm. Là? On a fait « Oh oui, il manque le général des deux côtés de la patinoire. » Fait que tu y vas avec l'Avalanche?
Ouais, Avalanche en 6 matchs contre les Golden Knights. Donc, la porte est ouverte pour une confrontation Avalanche-Canadien, peut-être.
Mais là, on a
juste ramener des bons souvenirs, on sait pas.
Mais c'est ça que j'allais dire. Soit qu'on va avoir une finale canadien-nordique ou nordique-Whalers. C'est la division Adams qui en sort vraiment gagnante après avoir tout ça.
Ouais, c'est bon, ça.
Beaucoup, beaucoup de beaux souvenirs pour les gens qui sont un peu plus âgés. Pour les plus jeunes qui nous écoutent, la division Adams, c'est une autre époque. Allez faire vos recherches. Ça serait un peu trop long à vous expliquer le tout, mais tout ce que je peux dire, c'est qu'il y avait de la bataille pas mal à l'époque.
La bataille,
Vendredi Saint, puis tout ça. Mais ouais, une autre époque.
Nick, j'ai dit Avalanche en 5.
J'étais un petit peu plus,
ouais, un petit peu plus rapide.
OK,
ouais.
Bon, moi, je vais y aller en 6 dans le cas de l'Avalanche, comme Guillaume. Les gars, merci d'avoir été là. Je vous laisse aller vous coucher. Moi, je vais travailler là-dessus, envoyer ça au montage pour que les gens puissent écouter le tout le plus rapidement possible. D'ailleurs, écoutez, chers auditeurs, on s'excuse un petit peu. Là. Je pense qu'il y a quelques petits problèmes techniques.
Ça n'a pas paru.
Visiblement, Hydro-Buffalo a fermé une switch là, parce qu'on a eu quelques petits problèmes au niveau de ton micro, Guillaume, et ton Internet. Et je comprends pas, parce que je veux dire, t'es dans le même hôtel que GF, mais bon, c'était pas pour toi, ça, ce soir.
Le modem est meilleur au 17e qu'au 15e, je sais pas.
Oh, la chance n'était pas de ton côté, on va espérer.
Mais moi, j'étais un étage tranquille parce que j'avais Alex Stock aussi qui dormait sur mon étage. Oh. Donc, c'est un étage très tranquille où l'Internet rentre.
Dans l'hôtel.
Oui, l'hôtel des Sables.
Les Sables restaient. OK, ben, exact. C'est pas qu'ils n'ont pas essayé, hein, les Sables. Ils ont essayé, mais. Même ça, ça n'a pas fonctionné. Merci.
Je veux juste faire un petit mea culpa, là, parce que je me souviens qu'à la date limite des transactions, j'avais pris les Sabres en exemple, puis j'avais dit, regardez, cette équipe-là est allée chercher des éléments pour les séries, le Canadien a décidé de ne pas bouger, nanana. Ces éléments-là, Sam Carrick, Logan Stanley, Luke Shen et Tanner Pearson, 4 joueurs qui ont regardé ce match 7-là et la majorité de la série, du haut de la passerelle, donc je voulais juste faire un petit mea culpa. Des fois, c'est peut-être mieux de ne rien faire que de.
Ou des fois, c'est une autre transaction en amont, quelques semaines, quelques mois auparavant, l'arrivée de Philippe Dano. Ça vient changer le portrait.
Ouais, mais on l'avait dit quand la transaction a été faite. Philippe Dano, il est rentré dans le vestiaire comme s'il n'était jamais parti.
Ouais. Mais ça a pris du temps quand même. Il avait perdu ses pantoufles, puis là, il les a retrouvées.
Oh, ouais, c'est ça. Puis la boîte de pizza qui traînait depuis 5 ans dans le fond.
D'ailleurs, parlant de boîte de pizza, si vous regardez les bulletins de sport, vous allez voir la superbe moustache à Guillaume qui, comme un certain collègue d'un autre réseau, aime parfois se retrouver dans l'angle de la caméra. Donc, Guillaume a fait une interprétation, une imitation sublime où on le voyait derrière. C'était Zach Bolduc, hein, Guillaume?
Je pensais que tu allais dire que Matheson t'avait donné
Matheson,
cette pizza
Matheson.
Parce qu'il était pas sans gluten. Fait qu'il a pu te refiler sa pointe
de pizza. Je l'aurais pris parce que
là j'en prendrais une, moi aussi, une pointe de pizza.
Allez, je vous laisse partir, les gars. Merci beaucoup d'avoir été sur ce balado aujourd'hui. Chers auditeurs, merci beaucoup aussi d'avoir été à l'écoute. Donc, les gars, comme vous avez entendu, se rendent à Raleigh le plus rapidement possible pour aller couvrir la suite de la série. Donc, vous allez pouvoir lire leur texte, le tout sur lnh.com dans les prochains jours, tout ça. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous aussi sur votre plateforme d'écoute pour être certain de ne pas rater notre prochain balado. On verra, là, on n'a même pas eu le temps d'en parler de quand on va faire tout ça. Donc, prochain épisode pour être certain de rien manquer. Abonnez-vous. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se reparle très bientôt.